les choulans. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. À tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Les Choulans est un habitat participatif en périphérie de Lyon. Ici, 7 foyers y vivent avec des espaces privatifs et des espaces communs. Une partie des travaux ont été réalisés en autoconstruction avec des matériaux durables. Audrey Jiquel nous accueille pour nous présenter le fonctionnement du lieu. Audrey s'est spécialisée dans l'accompagnement des collectifs. Elle nous donne des clés pour mieux comprendre le fonctionnement de ce mode de vie. Elle est également auteure du livre « Les clés de l'habitat participatif » publié aux éditions Yves Michel. Dans cette émission, La Voix des Oasis, elle partage avec nous quelques-unes de ses expériences du vivre ensemble. Salut Audrey.
Eh ben, on est parti avec mon mari et mes deux jeunes enfants qui avaient 5 et 2 ans. Et on a fait un voyage de 2 mois pour visiter des habitats participatifs. Alors, j'étais en France, mais c'était très ciblé, c'était autour de Toulouse. On a fait une étoile autour de Toulouse et on a été visiter plein de lieux. L'idée, c'était pas de faire du zapping, mais de vraiment se poser. Et alors, il se trouve que comme je vis en habitat participatif, que je travaille dans le milieu de l'habitat participatif, je connais plein de gens et j'avais pas forcément l'occasion d'aller chez eux les voir et tout ça. Et donc voilà, ça a été l'occasion d'aller voir à la fois des copains que je croise régulièrement et avec qui j'avais commencé à bien sympathiser, en particulier suite au festival Oasis où on s'était rencontrés, voilà. Et puis d'autres habitats que je ne connaissais pas.
Alors, on va définir les termes. Un habitat participatif. Donc, tu as l'air d'être bien imprégné. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un habitat participatif ?
Alors, le terme habitat participatif est un terme qui a été défini dans la loi Allure en 2014, et qui définit un lieu où des citoyens se réunissent pour rêver, concevoir, construire et surtout gérer après leur logement ensemble, avec des espaces communs et des espaces privés et autour de valeurs communes. Ça, c'est la définition à peu près de la loi Allure. Donc pour moi, le terme, pour moi, c'est un terme qui est générique et qui englobe énormément de choses. Et qui peut englober l'habitat coopératif, qui est un type d'habitat participatif, par exemple, qui est avec un montage en coopérative, qui peut englober des choses avec des activités, par exemple. Donc là, on se reconnaît plus dans, il peut y avoir des oasis, des écovillages ou des choses comme ça, voilà. Mais pour moi, il y a ce terme, effectivement, habitat participatif, qui est très centré sur le mode d'habitat, avec des espaces communs, des espaces privés.
Alors c'est vrai que c'est un peu le sujet du podcast, on a commencé un tour de France, hein, donc cette série d'émissions radio donne la parole à des citoyens qui ont fait le choix de vivre autrement, donc soit en éco-hameau, en éco-lieu, en habitat participatif, enfin t'as plein de termes différents, mais souvent avec une idéologie qui est la même. Donc quelle est l'idéologie, quel est le projet, quelle est la vision que vous partagez ici au Choulans, donc le nom du lieu dans lequel on se retrouve, les Choulans Habitat Participatif.
Il y a un petit proverbe dans notre cuisine qui est... Ensemble, on va...
Quoi, déjà ? Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
Voilà. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci. Mais il y a ce côté-là, en fait, de se nourrir mutuellement des autres pour grandir. Pour grandir, pour partager, pour être moins dans la consommation, être plus dans le partage, plus dans le lien. Donc nous, voilà, au Choulans, on a été aussi très loin. On est un habitat participatif en rénovation. C'est pas si courant. Enfin, en tout cas, en milieu urbain. Enfin, on n'est pas dans le milieu urbain, on est dans du périurbain, mais on a vraiment auto-rénové nos logements. Donc on a acheté un ancien corps de ferme donc à Saint-Germain-Mont-d'Or, qui est à 20 km au nord de Lyon, qui est très très bien situé puisqu'on a un accès très rapide à Lyon, on est 15 minutes gare à gare. Et du coup, on est dans cette vieille ferme qu'on a achetée à une famille, hein. Il y avait juste une famille qui vivait là, et on l'a transformée en 7 logements. Voilà, et on y vit maintenant depuis pas loin de 8 ans. Alors, moi, j'y vis depuis pas loin de 8 ans, mais les personnes sont arrivées au fur et à mesure qu'on construisait les logements.
Alors, on va visiter après ce collectif. On parlait du mot collectif, ça correspond, hein, ce collectif, oui. Cet habitat partagé. Mais j'ai envie de revenir un peu sur l'origine. Donc, comment est-ce qu'on trouve ces copains, les familles qui vont participer à ce projet? Quels sont les gens qui vont se lancer dans cette aventure de l'habitat partagé?
Alors, nous, on n'était pas des copains au départ. On s'est connus autour du projet. On était, on va dire, des connaissances. Mon mari et moi, on a posé par écrit ce qu'on voulait. On l'a envoyé dans les réseaux écologiques, d'habitat participatif, etc. Voilà, des gens sont venus et on a commencé à construire le projet, qui n'était pas du tout ici au départ, qui était Montée de Choulan, et c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Montée de Choulan, c'est une rue qui est très connue dans Lyon parce que elle passe, c'est à peu près au niveau du tunnel de Fourvière. Voilà, le tunnel de Fourvière rentre dans la montagne à l'endroit où la Montée de Choulan monte. Et voilà, donc on a travaillé pendant un an sur ce projet, donc qui était vraiment en ultra-urbain, hein, qui était à 10 minutes de Perrache, vraiment plein cœur de Lyon, mais qui avait la particularité d'avoir 3000 m² de terrain, des arbres classés, enfin une espèce de truc complètement incroyable à cet endroit-là. On a travaillé pendant un an, c'est appartenu à des prêtres, et puis finalement ils ont choisi des promoteurs qui offraient plus cher que nous. Du coup, on a changé de projet, on a rebondi et comme on avait du mal à renoncer à ce jardin qui nous avait fait tant rêver, finalement, on a été un petit peu plus loin. On a trouvé cette bâtisse à Saint-Germain et on a décidé d'acheter. Évidemment, le groupe s'est complètement reconstruit. Il y a plein de gens qui ont lâché à ce moment-là, plein d'autres qui sont arrivés. Donc on a vraiment, comment on s'est trouvé, c'est vraiment le bouche à oreille, les réseaux, c'est autour du projet qu'on s'est connus. Et en fait, je trouve ça presque mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas des... Bon, je ne dis pas que c'est mal d'être avec des potes, mais des fois, on se pose moins de questions quand on démarre un projet avec des potes que quand on démarre avec des inconnus. Avec des inconnus, on a plus d'appréhension et du coup, on va vraiment se poser les questions de « Ok, c'est quoi tes valeurs ? Ok, qu'est-ce que tu veux vivre ?» Voilà. Et après, on peut vivre avec des gens... voilà, moi, mes cohabitants, il y a des personnes avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres et ça n'empêche pas, en fait, de vivre très bien et d'avoir des relations, d'amitié avec certains et plus de voisinage avec d'autres. Tout ça, c'est très bien.
Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de vivre différemment. Donc, est-ce que l'habitat participatif peut répondre à cette envie de différence? J'aimerais bien comprendre quelles sont les motivations diverses qu'on peut avoir pour pouvoir rejoindre ce type d'habitat participatif.
Dans ce que tu viens de dire, pour moi, il y a deux questions. Il y a les motivations au démarrage. Donc, souvent, les motivations au démarrage, pourquoi je veux aller en habitat participatif, le côté partage, par exemple, juste l'aspect matériel, partager des espaces, c'est stupide d'avoir une chambre d'amis par foyer, partager une buanderie, c'est stupide d'avoir chacun sa machine à laver. Donc il y a le côté très matériel du partage. Nous, au Choulan, on va très très loin sur le partage, on a une flotte de véhicules en partage, on mutualise aussi toute notre alimentation, donc on s'organise en termes de courses, etc. Voilà, je pourrais vous montrer, mais voilà, du coup, et puis tout ce qui va être matériel du type appareil à raclette, appareil pour faire des crêpes, des trucs comme ça, voilà, tout ça on mutualise et c'est très bien comme ça. Et les outils aussi, on a une grosse mutualisation des outils. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est partage de savoir, partage d'échanges humains, de relations. Moi, personnellement, j'ai jamais vécu seule. Je suis passée de coloc étudiante à coloc d'actif à l'habitat participatif. En fait, pour moi, je n'ai pas... J'ai pas fait le choix de l'habitat participatif, j'ai juste pas fait le choix de l'habitat individuel, en fait. Pour moi, c'était juste une évidence. J'ai toujours vécu en collectif et j'avais pas envie de changer, même si c'était pas toujours facile. Après, l'autre question, ce que tu dis là, le développement intérieur, le travail intérieur, ça, moi, maintenant, je m'en rends compte au bout de 8 ans dans le collectif. Je me rends compte du chemin qu'on a fait chacun et de ce que ça m'a apporté. Mais c'était pas une de mes motivations à la base, c'est-à-dire qu'on n'est pas un habitat participatif centré sur le développement personnel, on fait pas du yoga, on fait pas, même si on fait des formations ensemble, on a fait des formations à la communication non violente, des choses comme ça, mais c'était pas notre objectif, c'était plutôt on fait ça pour nous améliorer collectivement, on fait, voilà. Mais il n'y a pas d'obligation à méditer chaque matin ou avoir une religion commune. On n'est pas du tout centré sur ça. Mais voilà, vraiment, quand je regarde en arrière rétrospectivement et que je constate ce que ça m'apporte au quotidien, c'est un peu comme... je fais souvent le parallèle avec les enfants. En fait, les enfants, moi, quand j'ai eu des enfants, j'étais effarée de voir que personne m'avait dit que des enfants, c'était du développement personnel en continu, en fait. Enfin, on est tout le temps en train de se dire, mais comment je fais ça? Ah oui, bon, et on lit des choses et on comprend mieux. Et ah oui, ok, ça me renvoie ça sur moi et du coup, on travaille sur soi. Bah, l'habitat participatif, c'est ça, en fait. C'est une galerie des glaces. C'est des miroirs de partout qui nous renvoient à nous-mêmes des choses à travailler. Et du coup... voilà, il y a peut-être des gens qui ont conscience de ça avant. Moi, j'en avais pas conscience avant. Moi, je le vois rétrospectivement. Mais en tout cas, du coup, maintenant, c'est mon métier et j'accompagne des groupes. J'invite les gens à réfléchir à ça. C'est-à-dire que si ils vont en habitat participatif en se disant « je veux pas changer, je veux rester tel quel », ah bah ça risque de pas très bien marcher, en fait. Parce que il y a besoin de... Alors, il n'y a pas forcément besoin de se mettre dans une grotte pendant 10 jours pour méditer, mais il y a besoin de se dire, ok, là, je suis en conflit avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça me renvoie? Et qu'est-ce que je dois réfléchir sur moi? Ou je suis en colère? Pourquoi je suis en colère? Est-ce que j'ai quelque chose à travailler sur cette question-là? Et puis, de mettre de côté l'ego pour aller voir à l'autre, pour aller à la rencontre de l'autre et dire, ok, on se pose et on discute de notre problème. Et ça, c'est pas facile. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment du travail au quotidien. Et du coup, voilà, ça me renvoie à, par exemple, des communautés qui, elles, sont vraiment très centrées sur la spiritualité, comme Damanour, j'en parlais tout à l'heure, donc au nord de Turin, où eux, ils ont vraiment, c'est vraiment une communauté et chacun n'a qu'une chambre et il y a vraiment des communs très, très importants. Et les personnes nous disaient que... oui, le collectif, c'est pas facile, mais que pour eux, c'était du développement personnel en continu. Et c'est vraiment ça. Pour moi, le collectif, il a vraiment ce pouvoir-là de nous transformer intérieurement pour peu qu'on en ait envie quelque part. Voilà.
Tu as utilisé deux mots, le mot communauté, le mot collectif. Donc, est-ce que tu les différencies? Donc, communauté, c'est plus vraiment le côté tous ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Et collectif, c'est peut-être plutôt un mot qui serait approprié à l'habitat partagé?
Participatif. Alors, ouais, moi, le terme communauté, pour moi, je l'associe vraiment à quelque chose de très communautaire, donc c'est-à-dire vraiment un peu chacun sa chambre et les espaces communs, type cuisine, éventuellement salle de bain, peuvent être partagés. Donc c'est le cas effectivement de Damanour, ça peut être le cas de l'Arche de Saint-Antoine, par exemple, ou voilà, du coup... Et puis dans l'imaginaire français, je dirais, c'est un petit peu cette image de la communauté des années 70. Et c'est pour ça qu'on évite d'utiliser ce terme-là pour parler de la nouvelle dynamique où c'est donc l'habitat participatif, c'est chacun son logement, donc complet. Enfin, nous, c'est le cas. On a des appartements qui sont complets. Donc, on a chacun notre cuisine, chacun notre salle de bain, chacun notre salon. Mais on partage une énorme cuisine commune, un énorme salon commun et puis plein de choses, des salles de bain, pas des salles de bain, des chambres d'amis, des buanderies, enfin, deux buanderies, on va dire. Donc, je distingue cette différence-là. Quand on peut être chez soi et qu'on n'est pas obligé d'être dans les communs, pour moi, ça n'est plus une communauté. Voilà.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
Si j'ai bien compris, à titre professionnel, tu fais ça aussi, tu fais de l'accompagnement pour des jeunes collectifs qui veulent se monter en habitat participatif.
Voilà, oui. Je suis au sein d'une structure qui s'appelle Habitat et Partage. On est 3 associés. Je fais donc de l'accompagnement, des formations effectivement pour à la fois des groupes ou même des particuliers qui veulent vivre un habitat participatif qui ne savent pas comment s'y prendre. Je fais des formations spécifiques sur ça. Mais sinon, j'accompagne effectivement dans la durée les groupes, donc à la fois sur tout ce qui va être l'humain, donc tout ce qui va être comment prendre des décisions, comment aider le groupe à se constituer, à créer du nous, voilà, du lien qui font que les gens sont bien ensemble. Et puis, les aider sur les aspects techniques, montage juridique financier, sur le projet, le suivi de projet immobilier, toutes ces questions-là. Et puis, au sein d'Habitat et Partage, on va un petit peu plus loin que juste accompagnement et formation, puisqu'on développe nos propres projets immobiliers au sein d'une foncière citoyenne. C'est-à-dire, c'est nous qui repérons un terrain. Donc là, c'est vraiment très adapté sur des endroits à pression foncière importante, comme la métropole de Lyon. Donc, on repère des terrains donc proches de Lyon et on constitue un groupe sur ce terrain. Donc, on fait un appel, on a 2000 personnes intéressées dans nos bases de données intéressés par l'habitat participatif, donc on dit hey, oh, il y a un projet à tel endroit, et donc on constitue, enfin le groupe se constitue, on l'accompagne pour se constituer, et ça, le groupe reste maître sur tout ce qui va être espace individuel, espace commun et leurs valeurs, et nous on s'occupe du montage juridique financier, on porte en fait ce projet-là.
Okay. Comment est-ce que tu as mis un pied dans cet univers?
Bah, c'est les chevelants, enfin, j'ai tout appris dans, c'est mon projet personnel qui m'a vraiment appris ça par les chevelants. J'ai fait pas mal de formations, mais je suis passionnée par l'intelligence collective. Ça fait longtemps que voilà, j'aime beaucoup faire des formations, des réunions et voir cette intelligence collective dans les yeux des gens. Donc voilà, ça a été assez naturellement que je me suis orientée. Assez récemment en fait, c'est depuis 2018 que je suis accompagnatrice. Avant ça, j'étais conseillère info-énergie, donc je conseillais sur l'énergie dans le bâtiment, ce qui est bien utile également en habitat participatif, voilà, de connaître un petit peu. Donc voilà, de formation ingénieur, voilà, au niveau de la technique, ça ne me fait pas trop peur non plus.
Et quel est le lien avec le réseau Oasis ?
Je suis très en lien, j'aime beaucoup me mettre en lien avec les différents réseaux. Il y a deux réseaux que j'aime beaucoup, que je suis énormément. Donc il y a effectivement le réseau Oasis, donc a été au départ porté par les Colibris. Et puis il y a tout le réseau de Habitat Participatif France. Alors quel est le lien? Nous, au Choulan, on se sent dans les deux. On est à la fois un habitat participatif, déjà parce qu'en 2012, le réseau Oasis n'était pas celui qu'il est maintenant. Il a vraiment pris de l'ampleur en 2015. Et voilà, et le réseau Habitat Participatif France est beaucoup plus ancien et nous a, voilà, nous a un petit peu plus porté, même si c'était aussi vraiment le démarrage. Maintenant, ce que je vois de ces deux réseaux, c'est qu'ils ont des couleurs et des nuances un petit peu différentes, même si effectivement ils portent vraiment le même message de se vivre autrement, de se vivre en collectif, de trouver des manières de s'organiser différemment et de construire différemment. Habitat Participatif France a une couleur, je dis bien une couleur pour vraiment nuancer, parce que pour moi les deux peuvent vraiment être sur tous les domaines, hein, mais a une couleur plutôt urbaine avec des problématiques qui vont être centrées sur les problématiques qui sont plus de l'ordre des montages juridiques qui peuvent être complexes en milieu urbain, avec des bailleurs sociaux, avec des questions de prêts locatifs sociaux, enfin voilà, les coopératives d'habitants, etc., qui peuvent être des fois un peu complexes en milieu urbain, avec évidemment cette pression foncière qui fait que c'est toujours, enfin c'est souvent lié à un investissement d'une commune, d'un bailleur, voilà. Et puis les Oasis sont plutôt avec une couleur plus rurale. Donc avec des gens, quelque chose de très différent, c'est-à-dire il y a moins de pression foncière, c'est des projets qui sont moins chers, il y a moins souvent besoin d'un engagement politique, même si ça aide évidemment. Voilà, donc c'est ces deux réseaux qui ont du coup deux couleurs un peu différentes et qui du coup trouvent des publics un peu différents, mais qui sont extrêmement complémentaires.
Est-ce que tu as des chiffres par rapport aux aventures d'habitat participatif en France?
Alors, il y a la carte nationale des habitats participatifs et Oasis. Hein, donc, les deux réseaux dont on parlait tout à l'heure se sont accordés pour faire une carte mutualisée. Et il y a actuellement... Alors, quand on parle d'Oasis, il y a Oasis de vie. qui correspond à peu près aux habitats participatifs. Et il y a les oasis ressources qui sont plus des lieux de formation, des lieux d'accueil. Voilà, donc je mets de côté les oasis ressources. Mais sur les habitats participatifs ou oasis de vie, on est à, je crois, 750 par là en France. Mais tout, alors ça, ceux qui sont référencés. En fait, il en existe d'autres. Il faut savoir qu'il y a eu un mouvement dans les années 80, avec tout un mouvement qui a été fédéré par MHGA, le mouvement des habitats autogérés, qui est devenu Eco-Habitat Groupé, qui est un mouvement qui existe encore, qui fait partie d'Habitat Participatif France. Et il y a eu tout plein d'habitats participatifs qui sont nés de ce courant. Après, certains qui étaient en copropriété se sont peut-être un peu disloqués. Enfin, je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Mais il y en a certains encore qui sont encore très vivants et qui font partie de la carte des habitats recensés. Il en existe, moi j'en connais 14 qui sont encore assez dynamiques. Mais en fait, à l'époque, dans les années 80, il y en avait peut-être une centaine en France. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y en a certains qui ne sont pas recensés, et des petits collectifs aussi qui ne voient pas l'intérêt d'être recensés. J'en connais au moins deux autour de Lyon qui ne sont pas recensés et ils n'y voient pas l'intérêt. Donc il y en a certainement plus encore que ce que je dis.
Bah écoute, alors on va faire le tour de comment tu l'appelles cet endroit, un domaine, un château, on est où, comment ça s'appelle, les Choulans.
Non, c'est un ancien corps de ferme. Je peux vous présenter juste là, donc parce qu'on voit, donc on voit qu'il y a une maison en pierre. Voilà, qui est vraiment une maison type bourgeoise qui date de 1850, enfin de ce qu'on a pu voir, des marques sur certaines poutres, voilà, donc assez vieille, qui était donc la maison anciennement habitée dans laquelle on a fait deux appartements au premier et au deuxième étage, et on a gardé au rez-de-chaussée l'ancienne cuisine, donc qui est existante, qui est devenue notre cuisine commune.
Mais comment est-ce qu'on décide on se réunit tous ensemble, on définit ensemble les plans, comment ça se passe? Qui c'est qui décide des différents choix qui peuvent être faits au sein de ce collectif?
Alors, évidemment, c'est nous qui décidons, c'est les habitants. Par contre, on s'est aidé d'un architecte au début du projet. Et puis après, voilà, on a acheté... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a acheté de manière très, très rapide ici. Et on ne savait pas encore où on allait vivre, en fait. On savait qu'il y avait un potentiel, voilà. Et on l'a fait après, ça s'est fait pendant la signature de compromis et l'acte de vente, où chacun s'est projeté dans différents lieux, et on a vu les choses potentielles, et du coup, chacun s'est projeté. Et il y a eu on a imaginé à un moment donné casser ce rez-de-chaussée, et en particulier ces espaces communs existants, mais on va aller les voir, ils sont tellement beaux, ça aurait été bête de... Voilà, puis en plus il y a un côté dans la rénovation, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme, qu'on a des fois envie de garder des choses, donc c'est toujours perturbant de casser de l'ancien, on a envie de le mettre en valeur, de préserver, donc il y a des choses qu'on a gardées telles quelles.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
On va se remettre dehors et on va aborder le sujet juridique, montage juridique, SCI, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Quand on commence un projet d'habitat participatif, par quoi commence-t-on?
Eh bien, pas par le juridique, justement. On commence par constituer. Moi, je travaille avec les groupes sur la constitution du « nous ». Parce qu'en fait, c'est par la confiance au sein du groupe qu'on va réussir à prendre des décisions. On ne peut pas prendre des décisions si on n'a pas ce niveau de confiance et si on n'a pas cette envie de vivre ensemble et ce nous, ce collectif qui est né. Donc au démarrage, ça va commencer par de l'interconnaissance, par définition des valeurs, définition de la raison d'être. Ça va être trouver le nom, des choses structurantes. On va prendre des décisions ensemble, mais sur des choses qui ont une grande valeur, mais qui ne sont pas les montages juridiques. Pour plusieurs choses, parce que en fait, il y a plusieurs étapes dans le nous, en fait. Ce collectif, il naît petit à petit, et au début, on a des espèces de masques, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas dans l'authenticité.
Et du coup, il y a besoin, voilà, de faire tomber ces masques. Il y a besoin aussi des fois de rentrer dans des conflits. Hein. Il y a plusieurs étapes. Il peut y avoir aussi cette partie de conflit. Et donc, c'est que quand on est vraiment sur un collectif qui commence à être mature, qu'on va pouvoir prendre des décisions vraiment structurantes. Voilà. Donc
cette étape-là, constituer son collectif, ça prend combien de temps ?
Ça peut dépendre des collectifs et puis ça dépend aussi du nombre de rencontres en fait. Clairement, je vois là, il y a des collectifs avec le confinement. Là, il y a la Maison Bleue là qui s'est retrouvée. Ils étaient en coloc et ils ont migré dans un lieu 5 jours avant le confinement. Mais clairement, si on se retrouve tous en mode 24/24, le collectif il naît très très vite, c'est évident. Alors que quand on se réunit une fois par mois, bah là, ça peut prendre des années. Donc voilà. Pour moi, c'est long. Sur les groupes que j'accompagne, par exemple, j'ai un groupe là à côté d'ici à Trévoux que j'accompagne depuis janvier. Et on va commencer maintenant là à aborder la question juridique. Et après, la question juridique, on l'aborde pas par le biais de quel montage juridique. On l'aborde par construire le cahier des charges juridiques. Le cahier des charges juridiques, c'est des questions qui ne sont pas du tout techniques, qui sont est-ce que vous voulez être propriétaire ou locataire ? Est-ce que vous voulez être solidaire entre vous sur l'aspect financier, est-ce que vous voulez enfin voilà, c'est des questions qui sont vraiment des presque des choses de l'ordre des valeurs du groupe en fait. La question de l'héritage, la question de la gouvernance, enfin toutes ces questions-là, il faut se les poser et ensuite ça va déboucher sur un statut, voilà. Et après, enfin voilà, moi en tout cas, comment j'accompagne les groupes, je les fais travailler sur ce qu'est des charges juridiques. Et puis après, je leur propose un top 3 de montage juridique que je leur présente et on travaille ensemble. Et sachant que on n'a jamais le montage juridique idéal par rapport au cahier des charges, il faut toujours faire des compromis. Donc voilà, on analyse vraiment jusqu'où on peut tordre un peu les montages juridiques pour convenir au mieux au groupe.
Donc, un, trouver son collectif, créer du lien, apprendre à se connaître et trouver une direction, une orientation commune. Deux, s'intéresser au montage juridique. Et trois ?
Alors, non, il manque une étape entre la création du nous et le montage juridique, c'est le montage financier. Parce qu'un élément quand même essentiel du choix du montage juridique, enfin, même l'élément essentiel du choix du montage juridique, ça va être l'aspect financier et la manière dont on peut se financer. Donc voilà, c'est un, le nous, deux, montage financier, donc qui amène quoi, comment ça, on va réussir à articuler tout ça. Et après, on s'oriente vers le montage juridique pour voir comment on peut... comment faire qu'avec les sous qu'on a et les possibilités qu'on a, on peut acheter. Voilà, donc ça va jouer là-dedans. Et après, la suite, c'est quoi ? Une fois qu'on a monté, qu'on a le montage juridique financier, on sait cette articulation-là, on peut aller plus loin. Mais tout ça, c'est en parallèle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le programme architectural en parallèle du montage juridique financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dans notre habitat ? Donc les espaces communs, les espaces privés, tout ça, c'est ensemble. On fait le montage financier en sachant ça, en fait. Donc voilà, tout ça, c'est en parallèle. Quelles sont les exigences environnementales ? Donc voilà, on construit tout ça. Et puis, normalement, à peu près au moment où on choisit le montage juridique, c'est le moment aussi où on a le terrain et on va aller choisir l'architecte. Et tout ça, tac, tac, ça débloque la suite. Et après, on va aller sur travailler sur l'esquisse, sur les différentes étapes avec l'architecte et après ces projets immobiliers en tant que tels.
Et après, on fait ses cartons et on déménage, on vient habiter tous ensemble.
Voilà. Évidemment, il y a plus de complexité si c'est en construction que si c'est en rénovation. Enfin, il y a des complexités différentes.
Cette construction du nous, elle est quand même très importante. Comment ça se passe si quelqu'un décide de quitter le collectif et qu'il y a une intégration d'une nouvelle personne qui vient ? Comment se recréer un nouveau nous ?
Alors, c'est pas tout à fait un nouveau nous. Pour moi, le collectif, déjà, il va créer un processus d'intégration pour intégrer une nouvelle personne. Et il va soigner cette intégration pour que la personne puisse se fondre dans le nous existant. Donc, évidemment, c'est pas complètement linéaire. Il y a forcément des va-et-vient. Et il peut y avoir des remises en question. Hein. Une nouvelle personne, elle va avoir envie à un moment donné d'apporter sa touche, en fait. Et si sa touche, c'est remettre en question la gouvernance, c'est possible. Hein. C'est aussi ça qui fait... Pour moi, c'est aussi des choses qui font mûrir le collectif. Mais... Mais nous, on l'a vu, on a fait des intégrations. En fait, on a acheté et on a commencé à construire alors qu'on n'était pas au complet. Donc, on a eu des intégrations de personnes alors que ça faisait un an et demi, des fois deux ans qu'on se connaissait et qu'on était ensemble. Et il y a eu vraiment cette sensation de que les gens venaient se fondre un petit peu dans ce collectif, venaient à la fois rapporter de l'énergie, parce que nous, c'était des moments, je pense à un moment donné où il y a eu une sorte de crise dans le collectif, avec des personnes qui se mettaient un peu à l'écart, en pause, parce que c'était difficile pour elles. Et l'arrivée de nouvelles personnes a redonné un nouveau souffle et vraiment un nouvel élan. Ça leur a pas fait peur d'arriver dans ce moment de crise, heureusement. Et du coup, ils sont vraiment intégrés. Donc, c'est des choses qui sont assez... Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté... on se fond dans le collectif. Évidemment que ça donne... Ça oriente le collectif différemment, mais voilà, c'est différent.
Est-ce qu'il y a des outils qui sont utilisés pour justement un peu créer du lien dans ce collectif? Quand on a des problèmes, comment est-ce qu'on fait? Ce fameux facteur humain?
Oui, il y a plein de choses qui existent. Je peux citer, par exemple, il y a les cercles restauratifs qui sont assez connus, qui sont utilisés par pas mal de groupes pour aider. Donc le cercle restauratif, c'est pour créer un processus de gestion de conflits. Mais le mieux, c'est de le faire avant que le conflit arrive, parce que sinon, ça ne marche pas très bien. Et après, du coup, on l'applique quand le conflit arrive. Nous, au Choulan, on a fait un peu notre tambouille, mais je dirais, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de temps ensemble, d'informel, de créer du jeu. Enfin, voilà... Le jeu, moi, je trouve ça génial. Rire ensemble, en fait, c'est quelque chose d'assez génial. Mais chaque collectif va trouver ses choses. Nous, on a beaucoup de musiciens. Donc, les moments où on va, voilà, faire de la musique, mais ça peut être ceux qui savent pas faire de la musique, ils prennent un tambourin, puis ils tapotent. Mais les moments où on chante, où on fait de la musique ensemble, c'est des moments assez joyeux, où on danse, où on reçoit des musiciens, c'est des moments assez joyeux pour nous. Mais il y a plein de choses qui peuvent aider nous. Nous, on se fait des week-ends choulants. Alors au début c'était pour faire des formations ensemble, mais maintenant c'est juste pour passer du temps ensemble. Donc on va à la montagne et on fait des randos. Alors on a nos voisins qui disent mais vous êtes pas tarés, vous avez une maison ensemble et en plus vous allez vous faire un week-end ailleurs. Bah oui, ça nous arrive et voilà. C'est des moments qui nous aident à être plus soudés et plus en lien. Alors là le confinement ça nous a fait des vacances des vacances choulants sur deux mois, voilà. Donc qui était mais c'est et c'était vraiment très joyeux, hein, clairement, même s'il y avait des tensions, des peurs, des craintes par rapport à ce confinement, par rapport à ces règles sanitaires un petit peu spéciales. Globalement, ça a été un moment qui était plutôt bien vécu face à ce contexte-là. Je voudrais juste dire un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les clés de l'habitat participatif, mes expériences de vivre ensemble » et qui est vraiment basé sur mes expériences des Choulans, beaucoup plus que mon expérience professionnelle. Et je parle énormément de la création de ce collectif et de comment créer le nous, de tout ce qui touche au développement personnel au sein du collectif. Je parle beaucoup du vivre ensemble, etc. Enfin, voilà.
Audrey, merci. Donc en fait, ici, professionnellement, chacun a une activité différente. Il y a pas de, vous ne bossez pas ensemble?
Non, oui, oui. Il y a pas de partage de revenus et il n'y a pas d'activité sur le lieu. Mais par contre, pas d'activité sur le lieu. Il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, encore plus en ce moment. Mais il n'y a pas d'activité liée au Choulan. Après, on peut avoir des activités qui trouvent du sens dans ce lieu. Moi, je donne des formations au Choulan et ça a énormément de sens, en fait, de donner des formations. Et donc, avec notre grande salle commune qui va être normalement terminée cet été, je pourrais en donner. Mais on n'est pas un lieu d'accueil, on n'est pas un lieu d'activité.
Merci beaucoup. L'habitat participatif, les Choulans, dans cette émission La Voix des Oasis. Merci à Audrey d'avoir pris la parole.
La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.